France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Mon invité ce matin nous a déjà raconté son travail avec Léo Ferré, dont il fut le merveilleux arrangeur dans les années 60. Mais Jean-Michel Defaye est un musicien complet dont je vous propose aujourd'hui le portrait, depuis le Conservatoire de Paris jusqu'aux compositions pour cuivre qui l'ont rendu célèbre, en passant par les branquignoles Zizi Jeanmaire et les commandes radiophoniques. Jean-Michel Defaye à mes côtés dans quelques minutes, juste le temps d'un petit tour de l'autre côté de l'équateur où l'été ne fait que commencer.
Amor, eu explico porquê. Sem você sofro muito, não posso viver. Sem você mais aumenta o meu padecer. Tudo fiz sem querer, meu grande amor. Eu peço desculpa a você.
Meu consolo é você, meu grande amor. Eu explico porquê.
Mas se por acaso você não me perdoar, juro por Deus que não vou me conformar. Pois a minha vida sem você é um horror. Eu sofro noite e dia e você sabe por quê. Meu consolo é você. Sabe por quê? Meu consolo é você.
Meu consolo é você, meu grande amor. Eu explico por quê. Sem você sofro muito, não posso viver. Sem você mais aumenta o meu padecer. Tudo fiz sem querer, meu grande amor. Eu peço desculpa a você.
Et oui, ça fait du bien, un peu de chaleur musicale au cœur de l'hiver. J'ai lu d'ailleurs que mon invité ce matin, Jean-Michel Defaye, trouvait que le folklore brésilien était l'un des plus beaux du monde. Et j'ai envie de lui donner raison quand j'écoute cette chanson « Meu Consolo e Voce » par Orlando Silva et l'orchestre Victor du Brésil.
Thank you.
L'introduction du ballet de Roméo et Juliette de Gounod, encore une de ces belles musiques d'ailleurs de ballet d'opéra qu'on donne malheureusement très rarement en concert. Alors honneur à Michel Plasson qui est l'un des seuls à l'avoir enregistré avec son orchestre du Capitole de Toulouse.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Les ballets d'opéra, c'est d'ailleurs une zone un petit peu frontière, comme ça, entre la musique classique, l'art lyrique, le divertissement, la légèreté. Et ces frontières-là, mon invité les connaît particulièrement bien. Lui qui aurait pu devenir un compositeur contemporain comme les autres, mais qui a choisi d'être à la fois grand arrangeur de chansons, chef d'orchestre de musique de danse, compositeur pour cuivre, compositeur de cinéma et même de quelques œuvres vraiment sérieuses. J'ai la joie d'accueillir ce matin Jean-Michel Defaye. Bonjour Jean-Michel Defaye.
Bonjour Benoît.
Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin et de commencer avec Zizi Jeanmaire qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps et que vous avez fort bien connu. Hein.
Oui, bien, j'ai travaillé avec elle du temps de l'Alhambra où Roland Petit avait fait un spectacle.
Et donc, une revue en somme.
Une revue, oui. C'est-à-dire, oui, et c'était la seconde partie hein, du spectacle qui était consacrée à Zizi.
Oui.
Et donc elle chantait des chansons, il y avait des ballets aussi.
Ah oui. On disait qu'elle n'était pas facile. Moi, j'avais eu la joie de la recevoir. C'était très bien, d'ailleurs.
Elle était charmante.
Elle était charmante.
Alors, je vais vous dire, parce qu'elle avait un mari un petit peu bizarre, pendant petit. Moi, personnellement, je ne l'aimais pas trop. Et quand elle était avec lui, elle devenait désagréable comme lui. Il déteignait sur elle. Alors, je n'aimais pas qu'il vienne, moi. Je disais, pour lui qu'il vienne pas trop souvent.
Oui. En tout cas, cette chanson célèbre qu'on vient d'entendre, elle est sur une musique de Jean Constantin, des paroles de Bernard Dimet, mais il y a aussi cette couleur si particulière qui est la couleur de Defaye, puisque c'est vous qui avez dirigé l'orchestre et fait l'arrangement pour l'enregistrement. Hein.
Oui, c'est le même arrangement qui a servi pour le disque et puis pour le spectacle.
Voilà.
Voilà.
Vous en êtes content là quand vous le réécoutez, c'est pas mal. Hein.
Oui, oui. Puis il faut dire que j'avais de bons musiciens aussi.
Oui.
Oui. Ça joue, hein.
C'était les habitués de l'orchestre Defaye, on peut dire, c'était toujours les mêmes.
Ben, vous savez, à l'époque, oui, on mettait souvent orchestre Intel, mais c'était les mêmes musiciens qui travaillaient pour tout le monde, en fait.
Et qui, pour la plupart,
et venaient... là, c'était plutôt les meilleurs.
Qui, pour la plupart, venaient de l'orchestre de l'opéra.
Pour les cordes, oui.
Oui.
Mais les cuivres, non. C'était un peu des indépendants qui travaillaient comme ça pour tous les arrangeurs, oui. Voilà. On trouvait toujours à peu près les mêmes, d'ailleurs, forcément.
En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver, parce qu'on avait fait, il n'y a pas tellement longtemps, une émission autour de Léo Ferré, dont vous avez été, on le sait, le grand, le merveilleux arrangeur. Mais quand on voit tout ce que vous avez fait, je me suis dit vraiment, il faut qu'on parle un peu plus largement de la carrière de Jean-Michel Defaille, pianiste, arrangeur, compositeur, chef d'orchestre. Il y a quelque chose qui est plus important que le reste pour vous dans tout ça, ou c'est justement ce qui fait votre spécificité ?
Alors, pour moi, c'est un ensemble.
Un ensemble, oui.
Moi, c'est-à-dire, au départ, moi, j'avais travaillé le piano, j'étais que pianiste. Et puis, bon, après, j'ai commencé à faire des orchestrations, des arrangements, et j'ai dû diriger mes séances. Alors, je suis venu par la force chef d'orchestre.
Voilà.
Bon, ceci dit, je n'avais pas vraiment les qualités d'un grand chef d'orchestre. Je n'aurais pas dirigé le Sacre du Printemps, par exemple. Mais pour diriger des chansons, de la musique de variété, là, je n'avais pas de problème.
Mais compositeur, c'est pas plus important que le reste dans votre esprit ?
Ma carrière, elle est un petit peu coupée en deux. Il y a le côté, si vous voulez, jazz, musique de variété, et puis le côté classique, parce que moi, j'ai une formation de musicien classique. J'ai fait 10 ans de conservatoire.
C'est ça, on va en
parler. J'ai fait le
Prix
de Rome, etc. Alors, donc, j'ai un peu deux volets dans mon existence.
Voilà. Vous êtes même peut-être, excusez-moi, c'est le privilège de l'âge, un des derniers à avoir connu le temps des Prix de Rome, où on se préparait pour ce concours fabuleux.
Oui, moi, je l'avais fait quand même 3 fois, le Prix de Rome.
Ah, oui.
J'ai jamais eu le premier Grand Prix.
Voilà.
J'ai eu le premier, second Grand Prix, qui était une formule un peu bizarre, mais bon.
En tout cas, voilà, on va écouter certains aspects donc, de cette œuvre si diverse qui, au fond, est la vôtre. Et je propose, tiens, pour commencer, un de vos amis, grand, grand interprète, grand trompettiste, s'il en est, c'est Maurice André dans Flash numéro 1. Flash numéro 1 pour 4 trompettes, 3 trombones et tuba sous la houlette de Maurice André. On est très loin de Montreux-en-Plume. Là, c'est Defaille, compositeur à part entière. Là.
Oui, oui, ça c'est très différent. Bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'autre volet.
Voilà. C'est pour ça que je voulais tout de suite faire le contraste avec cette série de pièces qui s'intitule toutes Flash. Hein, numéro 1,
oui,
2,
c'est
3.
Des petites pièces très courtes. Voilà. J'avais écrit ça en Corse, sur les plages corses, parce que j'ai beaucoup travaillé comme ça dans la nature.
Ah oui ?
Oui, c'est très agréable parce qu'on travaille sans s'en apercevoir.
Ah oui, c'est bien, c'est une bonne façon de faire. Ouais.
Ça a épaté beaucoup les gens de voir quelqu'un qui écrivait des notes de musique sur une plage.
Sur une plage.
Ah oui.
Le bruit de la mer ne vous gênait pas ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Alors, il faut dire qu'André, Maurice André a été votre camarade de conservatoire. Hein. De tout jeune élève, vous le connaissiez déjà, même si vous avez enregistré finalement relativement tard avec lui.
On était très contemporains. Je crois qu'il était né un an après moi, en 1933, hein, c'est ouais. Ça ? Oui, oui. Donc, on a dû se connaître, je pense, au conservatoire. Et bon, alors petit à petit, on a collaboré. Bon, j'ai fait pas mal de disques pour lui. Chez Ratto, j'avais fait les Trompettissimo, voilà. Qui étaient des œuvres classiques que j'avais jazzifiées.
Ouais. C'est ça. Ah, mais c'était la mode un peu à la Loussier, on peut dire.
À cette époque-là, oui. On faisait beaucoup ce genre de musique classique transformée en jazz. Voilà. Ça marchait bien, d'ailleurs.
Ouais.
Forcément, parce que cette musique classique est très carrée, et le jazz est très carré, donc automatiquement, ça marchait. Par exemple, j'aurais pas pu faire ça avec du Chopin ou avec des romantiques, qui est une musique qui se balade tout le temps, ce serait pas possible. Tandis que c'est une musique qui est chronométrée, donc ça allait très bien pour le jazz.
Mais ça illustre aussi, en tout cas, votre passion des cuivres, à laquelle on reviendra tout à
l'heure.
Ah
oui, ça, j'aime beaucoup.
Maurice André, donc, dans Flash numéro 1, qui nous renvoie aux années de conservatoire. Je crois d'ailleurs que c'est aussi sur les bancs du conservatoire, pendant la guerre, tout jeune, gamin, que vous avez connu votre futur grand ami, Michel Legrand.
On est entré au conservatoire la même année, on avait le même âge. On était tous les deux, en 32. Et on est rentré au conservatoire en 1942, donc on était en culotte courte, on avait 10 ans.
Dans un Paris occupé par les Allemands.
Oui, oui, oui. Et on a fait une cure d'une dizaine d'années. Moi, je suis resté plus longtemps au conservatoire que lui, parce que j'avais fait, en plus, après la classe de piano et le solfège, j'avais fait les classes d'écriture, l'harmonie, contrepoint, la fugue. Et Michel, je sais pas.
Il était parti chez Nadia Boulanger peut-être plus vite aussi.
J'avais été aussi chez Nadia Boulanger. Mais il n'avait pas fait les classes d'écriture, je sais pas pourquoi, ça l'embêtait. Bon.
Avec trois grands professeurs dont on peut rappeler les noms, parce que ça fait partie un peu de l'histoire de la musique française, ce sont les frères Gallon et puis Chaland également.
Henri Chaland, oui, il faisait lui, un peu les petites classes d'harmonie. C'était un peu les classes préparatoires pour les classes supérieures. Moi, j'avais fait effectivement 2 ans chez Henri Chaland et ensuite j'avais fait 2 ans chez Jean Gallon pour l'harmonie et chez son frère Noël Gallon pour le contrepoint et la fugue. Donc c'était de merveilleux professeurs.
Vous vous prépariez, en somme, même si vous nous l'aviez expliqué, vous étiez très bon pianiste, mais vous ne vouliez pas devenir concertiste. Par contre, vous envisagez de devenir un compositeur de musique moderne.
Absolument, oui. Oui.
C'était votre but.
C'était un palier à franchir.
Et qui passait par ce fameux prix de Rome dont vous avez parlé à l'instant.
Oui.
Vous avez regretté de ne pas partir à la Villa Médicis ?
Oui, un petit peu, mais ça ne m'a pas tourmenté.
Ça ne vous a pas tourmenté.
Ah oui, celui qui gagnait le Grand Prix était invité 3 ans aux frais de la princesse à la Villa Médicis. Et pendant la Villa Médicis, on avait une œuvre à composer par an, ce qui n'était pas trop dur quand même.
Non.
C'était très relax. Hein. Bon, j'ai un peu regretté. Mais enfin, ça ne m'a pas handicapé.
Alors, pour illustrer vos débuts de compositeur moderne, avant le virage vraiment vers la musique de variété, entre autres, j'ai trouvé un document très passionnant dans les archives de l'INA. Il s'agit d'une œuvre tout à fait classique du jeune De Faille, présentée par l'animateur de l'époque.
Pour ses 5 danses symphoniques, Jean-Michel De Faille reçut du Conseil international de la musique auprès de l'UNESCO la commande d'un concerto pour trombone, trompette et orchestre à cordes. L'amour et la folie, un ballet inspiré par La Fontaine, fut exécuté au Festival de musique contemporaine de Venise en 1955. Il compte encore à son actif un psaume, un concertino pour violon qui lui fut commandé par la direction des Beaux-Arts et une suite pour 2 pianos qu'il enregistra lui-même aux jours héroïques du re-recording. Quelques courts-métrages et plusieurs illustrations musicales radiophoniques, dont notamment celle qu'il écrivit pour Marche d'hiver d'Alexandre Arnoux, complètent son catalogue. Adversaire de l'atonalité, De Faille avoue ses préférences pour Stravinsky et Bartok.
Voilà, ça c'est le De Faille Stravinskien, tout jeune, de Écho et Narcisse, un opéra radiophonique donc, que vous avez composé, Jean-Michel De Faille, et dont on entendait juste avant la présentation vue de l'époque, un jeune compositeur qui fuit la tonalité.
Oui, j'écris de la musique atonale. Dans la présentation, là, il y a une petite erreur, parce que j'écris, moi, de la musique atonale, mais... J'ai jamais beaucoup aimé la musique dodécaphonique ou sérielle.
Parce c'est autre chose.
C'est une musique qui est faite sur des règles très strictes, qui est forcément atonale, bien entendu, mais qui n'est pas libre. Tandis que la musique atonale, bon, il n'y a pas de tonalité, on n'est pas en do majeur, on n'est pas en fa majeur, mais c'est pas dodécaphonique ni sériel.
Mais c'était vraiment Stravinsky qui était votre maître, si on peut dire, parmi d'autres.
Oui, j'ai toujours eu une vénération pour Stravinsky. Ça se sent d'ailleurs.
Oui, ça s'entend dans cette musique, c'est pour ça que je le dis. Oui.
Mais comme disait un de mes professeurs, il faut mieux ressembler à Stravinsky qu'à Landru.
Oui,
c'est amusant, non
dire,
oui. Ah oui,
voilà, en tout cas, vos débuts de compositeur sortant frais et moulu du conservatoire, cherchant peut-être un peu sa voix, mais vous aviez aussi, je crois, alors par contre, dès ces jeunes années-là aussi, Jean-Michel De Faille, une vraie passion pour le jazz.
Alors j'ai toujours aimé le jazz,
oui.
C'est une musique qui me convient, qui est très vivante, et puis qui est jouée par des instrumentistes qui sont des fois extraordinaires.
Hein. Ah oui.
Oui, il y a des musiciens prodigieux dans le jazz.
Et vous aviez déjà alors l'habitude d'en jouer vous-même au sortir du conservatoire avec des amis de vous retrouver.
Non, j'ai jamais participé à un groupe, rien du tout. Moi, des fois, pour moi, je m'amusais ça, à improviser ou des fois avec des amis, c'est tout. Mais bon, j'en ai pas fait mon métier.
Mais alors, au cours des années suivantes, alors que vous commenciez aussi, on y reviendra, à devenir un grand arrangeur de chansons, vous avez beaucoup travaillé avec la radio. Ça m'a frappé le nombre d'archives de la radiodiffusion française du début des années 60, de la fin des années 50 avec Jean-Michel De Faille, c'est étonnant. Et il y a notamment plusieurs émissions dont vous étiez vraiment le partenaire régulier, par exemple... Poète à vos luttes d'André Frédéric et Philippe Soupeau, vous vous rappelez?
Oui. Il y avait aussi un autre personnage dans l'émission, il y a Jean Chouquet.
Jean Chouquet, absolument.
Voilà, c'était Jean Chouquet et André Frédéric, c'était le réalisateur.
Voilà.
Et le duo, c'était Chouquet-Soupeau. Et j'ai fait beaucoup d'émissions avec eux. Oh, ils étaient charmants, puis ils étaient très ouverts à la musique. J'avais dû écrire des pièces, d'ailleurs.
Mais c'était quoi votre rôle dans cette émission, par exemple? Alors vous,
J'étais le musicien.
Le musicien de service pour accompagner...
Le musicien de service, exactement.
Vous en avez fait d'autres par la suite. Hein. J'ai vu beaucoup de disco-parades, beaucoup d'inter-parades, etc.
Ah, ça, c'était en tant que chef d'orchestre.
En tant que chef d'orchestre, exactement.
Mais ça, c'était agréable parce que j'avais une grande formation. C'était à l'époque Jean Fontaine qui dirigeait cette émission. Et on enregistrait à l'Alhambra, justement. C'était très dur, parce qu'on commençait à répéter à 13h de l'après-midi. On répétait jusqu'à 19h. On mangeait un petit sandwich et on enregistrait les deux émissions qui se terminaient à minuit. Ah oui. C'était un travail considérable. C'était deux jours pour m'en remettre. Hein. Ah, c'était crevant, crevant. Mais c'était formidable. J'avais 40 musiciens, j'avais un big band, puis des cordes.
Mais ce n'était pas un orchestre de la radio ?
C'était mitigé parce que j'avais des musiciens à moi.
Que vous mettiez
les,
avec.
Les trompettes, trombones, les sax, c'était mes musiciens. Et les cordes étaient peut-être fournies par la radio.
Par l'orchestre de la radio. Et vous avez aussi donc répondu dans ces années-là à beaucoup de commandes de musique légère. Il y avait tout un service très actif. Beaucoup de petites pièces que vous écriviez qui mettaient du beurre dans les épinards, c'est ça, du jeune compositeur?
Oui, j'avais tous les ans une commande. C'était Pierre Cabeille qui s'occupait de ça. Alors, il me disait, il ne faut pas que tu fasses des choses trop compliquées. Alors, j'écrivais ce qu'on appelle de la musique de demi-caractère. C'est charmant comme
c'est
expression.
Joli, hein.
Donc, j'écrivais presque de la musique légère, si vous voulez. Ouais. C'était agréable. J'en ai fait pas mal de pièces. Il doit y avoir une belle collection, non ?
Énorme collection.
Ah, voilà.
Mais je propose, alors, on va écouter plutôt un petit extrait, justement, de l'émission Poète à volute,
oui.
Dont vous êtes le chef d'orchestre, avec une musique de vous, et avec aussi les voix, on en reparlera après, de deux personnages qui étaient toujours dans l'émission, qui étaient présentés l'émission également, qui étaient Poiré et Serrault.
Poète. Avant lutte. Une émission de Philippe Soupeau et Jean Chouquet, animée par Jean Poiret et Michel Serrault. Avec aujourd'hui Denise Benoît, Yvette Dolvia, Micheline Dax, Roger Blin, Marie Dems et François Perrier. Avec l'interview d'André Frédéric. Direction musicale, Jean-Michel Defaille. Collaboration artistique, Pierre Codou. Prise de son, Albert Laracine. Production et réalisation, Philippe Soupeau et Jean Chouquet.
Nous commençons donc notre soirée par la samba parisienne de Jean-Michel Defaille.
Allons-y!
À volute, c'était le nom de cette émission, Jean-Michel Defaille, avec votre samba parisienne présentée juste avant par Michel Serrault. C'est amusant de retrouver sa voix également, à l'époque où il n'était pas encore tellement célèbre.
Non, ça remonte à quelle année, ça?
C'est fin des années 50.
Ah oui, bah, 50, oui. Fait 70 ans?
Oui. Mais oui, vous êtes là.
Est-ce
avec
que
nous
ça nous rajeunit ou est-ce que ça nous vieillit? Je ne sais pas, bon, peu importe.
Mais en tout cas, voilà, c'était la radio de l'époque, avec ce thème de samba qui souligne que vous aimiez beaucoup, d'ailleurs, je crois, la musique brésilienne. Hein.
Alors, j'ai toujours aimé, oui. Je suis d'ailleurs plusieurs fois allé au Brésil, qui est un pays formidable, et où il y a des musiciens étonnants. Hein. Ils ont un sens de la musique, ces gens, c'est formidable.
Ouais. Et vous avez écrit cette samba que vous avez utilisée, vous m'avez dit,
de plusieurs façons. Oui, oui.
Voilà,
le même thème. Différentes occasions avec un arrangement différent. J'avais fait 3 ou 4 versions sur ce thème que j'aimais beaucoup.
En tout cas, voilà une petite bande bien sympathique avec Poiré, Serrault, Micheline Dax et les autres qui rappelle un petit peu la bande que vous avez bien connue à cette époque-là également, qui est celle des Branquignoles.
Eh oui, j'ai été Branquignol pendant 1 an.
Vous êtes peut-être même le dernier des Branquignoles parce que je crois qu'il en reste presque quasiment plus.
Oui, il y a pas mal de disparitions, j'ai l'impression.
Donc la fameuse compagnie de Robert Derry et Colette Brossé avec Gérard Calvi pour la musique, vous y êtes entré assez vite parce que vous étiez proche de Calvi depuis toujours.
Oui, on s'était connus de réseau, on était très bons amis. Alors, Derry avait monté un spectacle au théâtre de nous qui s'appelait « Ah, les belles vacances ».
Ah, les belles vacances.
Au bout d'un an, Derry a monté un autre spectacle au théâtre des variétés. Évidemment, Calvi a suivi. Ouais. Il fallait quelqu'un qui le remplace au Dono. Et c'est moi qui l'ai remplacé pendant 1 an. J'étais le pianiste, chef d'orchestre et un petit peu acteur. De temps en temps, je montais sur scène pour faire des blagues. En fait. Bon, ça a été un moment très agréable de mon existence. Ça, c'est...
Il y avait dans la troupe Louis de Funès encore très peu
connu.
Oui,
c'était ses débuts.
Oui, c'est ça. Oui.
Il faisait un numéro avec Roger Katzia. Voilà. Un numéro au piano, c'était très amusant parce qu'ils jouaient du piano tous les deux.
Oui.
Alors ils avaient trouvé, ils jouaient à 4 mains, ils faisaient des gags comme ça, des bêtises. Ils faisaient semblant de jouer à côté du clavier. Enfin, c'était très chouette leur numéro.
Alors c'est l'amitié avec Gérard Calvi ou encore Michel Legrand qui vous a aussi mis sur le chemin des studios et de l'arrangement des chansons.
Oui, hein. Ça m'a bien arrangé parce que sorti du conservatoire, qu'est-ce que j'avais comme débouché pour gagner ma vie ? Être professeur, directeur d'un conservatoire de province, ça ne me disait rien du tout. Bon, je jouais bien du piano, mais je n'envisageais pas une carrière de concertiste. Alors, quoi faire ? Alors, un jour, c'est Calvi ou Michel, ils m'ont dit, mais fais comme nous, fais des arrangements, fais de la variété. Tu verras, c'est très agréable et tu gagneras bien ta vie. Ben, j'ai dit oui, c'est une très bonne idée. C'est comme ça que j'ai été incorporé, si vous voulez, dans ce milieu.
Vous avez commencé avec Lucette Raya.
Ah, Lucette Raya, oui, parce que j'ai été arrangeur attitré de la Maison Polydor pendant 3 ans. J'étais en exclusivité, ce qui ne m'empêchait pas d'ailleurs de travailler dans d'autres maisons de disques, mais sous un autre nom. Sous le nom de Franck Haussmann.
Voilà.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais su qui était Franck Haussmann. Alors c'était très drôle.
Il y a même un article qui a été écrit un jour disant que Franck Haussmann, c'était pas mal, mais il copiait un peu sur Jean-Michel Defay.
Exactement. Hein. C'était très drôle. Voilà.
Et donc vous avez pris goût finalement assez vite à ce métier.
Oui, en fait, j'ai même appris mon métier d'orchestrateur.
Oui.
Parce qu'au conservatoire, c'est un peu didactique hein, ce qu'on apprend. Tandis que là, j'étais vraiment... dans la réalité, puis alors c'était formidable parce que à l'époque le disque marchait à tout va. Moi, je faisais facilement 2 ou 3 séances par semaine.
Ouais.
Et alors souvent, je faisais 4 arrangements dans la nuit parce que on travaillait souvent au dernier moment comme ça. Et alors donc, ce que j'écrivais, j'entendais quelques heures après. C'était formidable.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de compositeurs classiques, comme ça, ils écrivent une symphonie, mais ils ne l'entendent pas. Comment voulez-vous qu'ils sachent si ça sonne bien ou pas ?
Ça vous permettait de gagner votre vie mieux que si vous aviez fait de la musique d'avant-garde.
Oui, exactement. Et ça m'a appris mon métier d'orchestrateur.
Voilà.
Parce que la façon d'écrire, quelle que soit la musique, que ce soit simple ou compliquée, c'est toujours pareil, hein. Il y a un peu des dispositions à respecter.
Et alors, parmi les nombreux tubes que vous avez arrangés et dirigés donc en studio, alors on a entendu par exemple Mon truc en plume tout à l'heure, il y a bien sûr Léo Ferré, mais il y a aussi cette ravissante Marjolaine de Francis Lemarque.
Un inconnu sur sa guitare dans une rue.
Marjolaine, voici jolie. Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat. Mais aujourd'hui, je reviens près de toi. Tu m'avais dit, je t'attendrai. Je t'avais dit, je reviendrai. J'étais parti encore enfant, suis revenu un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. J'étais parti pour 10 années, mais 10 années ont tout changé. Rien n'est pareil, et dans ta rue, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu plus jamais ne revient.
Un inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard, et avec lui ses compagnons sont repartis en portant la chanson.
Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri. Marjolaine, j'étais soldat.
C'est lui qui avait fait ça.
Une fin un peu abrupte, hein, n'est-ce oui. pas, Jean-Michel Lefaille?
Mais il y tenait à cette fin. Moi, je ne l'ai pas changé. Alors, j'ai fait la fin, Francis Lemarque. Moi, je n'étais pas systématique. Hein. Je n'imposais pas comme ça mes idées d'arrangeur.
Vous étiez à l'écoute, ça, moi, bien sûr.
C'était lui le compositeur, ce n'est pas moi.
Mais alors, en tout cas, on peut détailler un petit peu ce qu'on vient d'entendre. D'abord, la voix de femme qu'on entend au début, c'est Christiane Legrand, la sœur de Michel Legrand.
Bien sûr.
Et puis alors, il y a également, c'est ce qui fait aussi le charme de cette chanson. Moi, j'ai l'impression que c'est une mode qui a été lancée par Michel Legrand, peut-être je me trompe, cette façon d'utiliser un petit chœur dans l'arrangement.
Je ne sais plus si c'est Michel qui était l'inventeur de ça, mais peut-être à l'époque, ça se faisait assez souvent.
C'était une mode.
C'était une mode, de petits orchestres comme ça, mais ça sonne bien. Hein,
ça sonne très très bien, ben c'est très joli.
On peut faire sonner 6-7 musiciens et mal faire sonner 80 musiciens, hein. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, oui. Ah, la musique, c'est complexe, hein. C'est très précis, en fait, la musique.
Vous échangez des trucs, justement, avec ces autres maîtres qui étaient Michel Legrand, mais je pense aussi à André Pop, qui était dans la même maison de disques, tout ça. Il y avait comme ça un goût de trouver des couleurs, des idées.
On travaillait pas, comment dirais-je, en groupe, chacun travaillait pour soi. Hein.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Parce que chacun avait ses petits trucs, ses idées. Mais on se connaissait bien, d'ailleurs, tous. Oui. Hein, oui. On était très amis. Moi, j'étais très ami avec Michel, avec André Pop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait François Robert.
François Robert pour Jacques Brel, notamment. Oui,
François Robert. C'est drôle parce que tout le monde l'appelait François Robert comme si son nom s'écrivait R-O-B-R-T. Oui. Et en fait, son nom, c'est Rauber. Il était d'origine alsacienne.
Voilà.
Mais Rauber, ça faisait pas tellement bien dans le métier. Alors, tout le monde disait François Robert. Voilà.
On peut évoquer, alors, parmi vos différentes collaborations, donc Francis Lemarque, on l'a dit, qui était un homme sympathique, je crois.
Hein, oh, il était charmant.
Charmant.
Francis, oui.
Et avec lequel vous avez fait aussi une fresque historique, on peut dire, quelques temps après. Vous avez enregistré des chansons de...
Oui, il avait fait une grande fresque musicale qui s'appelait Paris Populi, qui était très bien d'ailleurs, qui avait été chantée par tout le gratin de l'époque. Ça avait été un gros travail. On avait enregistré ça d'ailleurs au Luxembourg, je ne sais plus pourquoi, avec le grand orchestre de Luxembourg. Sans doute peut-être pour des histoires financières. Bon, c'était un excellent orchestre. Et moi, ça m'avait fait un gros, gros travail. Hein.
Ouais.
Moi, ça m'avait pris peut-être un an pour faire ça. Oui.
Et puis alors, on peut citer alors, dans des genres très différents, par exemple, le sympathique et très drôle Rissé Barrier. Vous avez fait pas mal de disques avec lui aussi.
Ah, avec Rissé Barrier, c'était pas triste, hein. C'était un joyeux de rire. Mais il avait du talent, moi j'ai fait pas mal de disques avec lui.
Oui,
on peut il y a eu la célèbre, cette chanson qu'il chantait avec un accent paysan.
Je suis la servante du château.
Oui, la servante du château, la servante du château, il disait oui. Bon, je l'ai encore cette chanson.
On pourrait citer aussi Isabelle Aubray, qui a été à ses débuts vraiment
c'était ses
associée
débuts.
À vous. Non, hein.
J'ai fait plusieurs disques avec Isabelle Aubray. Elle était charmante. Elle venait travailler chez moi. Et mon fils, qui était tout jeune à l'époque, il a transformé en cheval et se mettait à quatre pattes. Il lui montait sur le dos, puis il faisait tout le tour de l'appartement, comme ça, pendant un quart d'heure. Ah, il était vraiment accommodante. Hein. Peut-être que tout le monde n'aurait pas fait ça. Non.
Et puis, un jour, donc, il y a cette rencontre avec Léo Ferré qui va vraiment donner un sens nouveau à votre métier, parce que là, vous êtes devenu, pendant plusieurs années, le partenaire de tout son travail et avec une volonté artistique qu'il n'y avait pas forcément toujours dans la chanson.
Oui. Oui, il était un peu à un niveau supérieur.
Oui, voilà. C'est ça.
Alors, j'ai travaillé une dizaine d'années avec Léo. Et quand on faisait un 33 tours, il habitait dans le Tarn. Et j'allais passer deux ou trois jours avec lui. Puis on travaillait sur les chansons, sur l'orchestration, parce qu'il avait des idées. Il me disait, pour cette chanson-là, moi, je verrais plutôt des cordes que des cuivres. Alors, bon, on discutait comme ça. C'était un vrai travail de préparation. Ce qui fait que quand on arrivait au studio, ça tournait tout seul, il n'y avait rien à changer. C'était du nanan.
Et ça a donné ces merveilleux albums de Verlaine, de Rimbaud, de Ferré.
Ça a été particulièrement réussi. Ça.
Baudelaire. Et on va en écouter une de Verlaine, parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et peut-être on pourra expliquer après ce que c'est un peu que la couleur, le style de Jean-Michel Defaille, après cette brève chanson si belle.
Il patinait merveilleusement, s'élançant impétueusement, arrivant si joliment, vraiment. Fin comme une grande jeune fille, brillant, vif et fort, telle une aiguille, la souplesse et l'élan d'une anguille. Des jeux d'optique prestigieux, un tourment délicieux des yeux, un éclair qui serait grâce. Parfois il restait comme invisible, vitesse en route vers une cible, si lointaine elle-même invisible. Invisible de même aujourd'hui, que sera-t-il advenu de lui? Que sera-t-il advenu de lui?
Voilà, du Jean-Michel Defaille sans cuivre.
Hein, ah oui.
Cordes et piano, mais il y a une couleur qu'on retrouve dans tous les disques de Ferré qui tient pour une partie sans doute à lui, à sa voix, à ses mélodies, mais aussi à votre patte. Oui, vous pouvez nous expliquer un peu.
Pas qu'à moi, il y avait aussi la qualité des musiciens qui, à l'époque, qui étaient des musiciens extraordinaires. Oui. Moi, j'avais fait quelques arrangements avec Ferré, avec uniquement des cordes, où j'avais 30 cordes. C'était aussi bien que le Philharmonique de New York ou de Berlin. Il y avait une qualité. Et puis en plus, on avait un preneur de son génial qui s'appelait Monsieur Gerhard Lehner, un bon studio. En plus, on travaillait tranquillement, on faisait trois titres par séance. Alors, on a une qualité qui a été rarement égalée, je crois, dans ce métier. Hein.
Mais vous aviez des copistes, des gens pour vous aider, enfin, c'était beaucoup de travail.
Ah, il y avait le copiste maison. Alors, mon copiste, c'était Pierre Hélian, de la célèbre famille des Hélian, Jacques Hélian.
La famille de Legrand, alors.
Oui, la femme de Raymond Legrand, qui était aussi une Mika Hélian. C'était Mika Hélian, leur vrai nom. Hein. C'était des Arméniens. Mika Hélian, c'était trop loin, alors ils avaient gardé Hélian. Voilà. Alors j'en ai fait voir à mon copiste, parce que souvent j'étais en retard, je finissais les arrangements chez lui, il copiait au fur et à mesure, on passait la nuit, lui aussi. Ah, ça a été une époque, vous savez, on bossait dur. Hein.
Ouais. En tout cas, il y a vraiment un style personnel dans tous ces disques Ferré qui, je crois, doit beaucoup à votre métier.
Oui, ça tient, je vous dis, à moi, aux musiciens, à la prise de son, ça forme un tout. Hein.
Et là aussi, dans cette chanson, on peut dire une atmosphère, une couleur symphonique. On est assez loin des arrangements d'avant la guerre, vous savez, où chaque instrument commentait un petit peu l'action de la chanson. Alors, il y avait une série de, de solistes.
Il y avait même une époque, des fois, les arrangeurs, ils arrivaient au studio, ils n'avaient rien fait du tout, et c'était les musiciens qui faisaient le travail.
Ah oui?
Oui, oui.
Ah oui.
C'est arrivé souvent avec un certain Raymond Legrand qui était toujours à la bourre. Oui, oui.
D'accord.
Alors l'arrangement, il n'était pas génial parce que c'était du bricolage. Hein.
Oui.
Mais lui, là, il avait un don de persuasion. Quand il dirigeait comme ça, ces trucs qui étaient bidons, hein, il se retournait vers la cabine, il disait « Ah, comme ça !»
Formidable.
Les gens, « Oh oui, c'est formidable !» Alors, c'était épouvantable. Bon.
Bon. Ça, c'était donc le père. Hein.
Oui.
Jean-Michel Defay, voilà, ces années ferrées, elles nous ont évidemment tous beaucoup marqués. Mais alors, dans cette époque-là, et j'ai remarqué d'ailleurs, comme tous les grands arrangeurs, ou la plupart, vous aviez aussi officiellement, pour certains disques, votre orchestre, l'orchestre Jean-Michel Defay. Alors, c'était quoi ces orchestres, au fond de...
Oui, bah, c'est une formule sur les disques, Jean-Michel Defay et son orchestre.
Voilà, c'est ça. Oui.
Mais en fait, c'était bidon, c'était pas mon orchestre, ouais. Aucun arrangeur avait son orchestre. Il y avait, bon, par exemple, Jacques Elian, il avait son orchestre, parce que lui, il faisait des tournées en province,
oui,
vous voyez,
ouais.
Voilà, il avait ses musiciens.
Ou Ventura,
mais,
oui.
Voilà, ou Ventura, parce que dans le métier, les musiciens travaillaient avec tous les arrangeurs.
C'est ça.
C'était pas mon orchestre, mais c'était la formule à l'époque.
Et dans un des disques de Jean-Michel Defay et son grand orchestre, voilà. Figure une chanson, alors qui vous a valu beaucoup de succès, qui s'appelle « Guitare Tango ».
Ben, c'est-à-dire que à l'époque, moi, j'avais une formule. J'avais donc un grand orchestre fixe, c'est-à-dire qui était des cordes, et j'avais un instrument soliste qui était différent pour chaque titre. Alors là, ça tombait très bien, parce que c'était un morceau pour la guitare solo qui avait été joué magnifiquement par Barthélémy Rosso, dit Mimi Rosso. Bling, 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 blom, tac, 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 bon. Non, tac, 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 c'était l'orchestre qui le faisait.
Ouais.
Alors ça tombait très bien. C'est pas moi qui avais choisi ce titre, il m'avait été en quelque sorte imposé, entre guillemets, mais c'était très valable, c'était un beau morceau de guitare, puis moi j'avais fait un bel arrangement derrière.
Voilà,
ça a eu beaucoup de succès, ce Guitare Tango, d'ailleurs.
C'était signé Georges Lieferman et Norman Maine, le
voilà,
titre.
Voilà, c'est ça.
Et ça a été un grand succès. Hein.
Oui, un grand succès.
Thank you.
Et c'était Berthélémy Rosseau à la guitare avec donc l'orchestre de Faye dans ce disque que j'adore, c'est sous-titré Douce ambiance, rêve et danse. C'était le programme du disque qui s'ouvrait donc par ce tube de l'époque, guitare tango, Jean-Michel de Faye. Je voudrais quand même qu'on en vienne maintenant après la guitare à donc cet instrument qui vous a porté un bonheur, on peut dire, qui a été le trombone. Et plus largement, les cuivres, est-ce que c'est le hasard ou c'était déjà une passion depuis toujours qui vous a conduit à écrire beaucoup pour les cuivres?
Oui, j'ai toujours été attiré par ces instruments, même étant jeune.
Ah oui?
Oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'aimais beaucoup les orchestres de jazz, parce qu'il y a des instrumentistes formidables.
Vous jouez vous-même un peu de trompette d'ailleurs?
Oui, j'ai joué un petit peu de trompette. Bon, ouais. J'aurais pas tenu...
face à Maurice André.
Non. Encore qu'une fois à l'Alhambra, pour la dernière, je m'étais mis à la place. Parce que c'était pas moi qui dirais. C'était un spectacle qui était venu après le spectacle de Zizi Jeanmaire. Je ne sais plus qui dirigeait. Et j'avais pris la place du premier trompette. Alors, la tête du chef d'orchestre, quand il m'a vu, et j'ai joué quand même, parce que je jouais pas mal dans la trompette.
Oui.
J'avais joué toute l'ouverture, enfin, pas complètement, parce qu'après, ça montait dans l'aigu, alors j'avais laissé la place à Gégé, à mon trompettiste.
Encore, la trompette, on peut dire qu'elle est relativement bien servie dans le répertoire de toutes les musiques, d'ailleurs, classique, jazz, baroque ou autre, mais le trombone, c'est quand même... C'est plus difficile. Hein. Il n'y a pas énormément de grandes compositions pour trombone, et vous, ça a été vraiment votre instrument privilégié.
Oui, j'ai écrit d'ailleurs une pièce qui s'appelle « Deux danses » pour trombone et piano.
En 1953.
Alors, cette pièce, elle a fait le tour du monde, et elle fait encore le tour du monde, parce que tous les trombonistes travaillent ces deux pièces, c'est très difficile.
Oui.
Et ça sert souvent d'ailleurs, par exemple, quand il y a une place vacante de premier trombone dans une association, ça sert comme morceau de concours. C'est-à-dire que le tromboniste qui joue mes pièces, là, les deux danses, parfaitement, on peut le prendre, il n'y a pas de problème. Le mec, il sait jouer du trombone. Ah oui, c'est un côté didactique. Mais d'ailleurs, c'était fait pour ça à l'époque. Ça avait été enregistré chez un disque de démonstration du trombone chez Selmer.
Ouais.
Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de trombonistes qui auraient pu la jouer, mais il y avait un soliste qui s'appelait Gabriel Manson qui avait enregistré mes deux danses, parce que c'était très difficile, et il n'y avait que lui à l'époque qui était capable de les jouer. Voilà.
Et c'est le succès de ces deux danses qui vous a poussé à écrire plein de musique pour les cuivres et pour les trombones.
Et après, j'ai continué, oui, j'ai écrit des quatuors, des quintets, des octuors, oui. Des morceaux de concours.
Donc vous êtes aimé et connu de tous les cuivres du monde.
Ah, oui. Moi, j'ai fait des symposiums aux États-Unis comme ça, les trombones. J'ai été reçu comme une vedette. Hein.
Et on va écouter tout de suite peut-être la danse profane, justement.
La samba.
Une de ces deux danses, encore l'influence brésilienne.
Oui.
Donc
encore.
Pour trombone et piano. Thank you. Danse profane de Jean-Michel Defay par Yann Bousfield et Alison Procter. C'est un des très nombreux enregistrements de vos deux danses hein, pour trombone.
Oh, il y en a Jean-Michel eu beaucoup. Oui. Voilà. Moi, je n'ai pas la collection complète d'ailleurs des enregistrements chez moi. J'en ai quelques-uns.
Une autre activité, Jean-Michel Defay, qui s'est développée à certains moments de votre vie, peut-être un peu moins, mais quand même, ça a été la musique de cinéma. Et il y a eu notamment, dans vos débuts de musique pour le cinéma, pour l'IMA, il y a eu votre amitié avec Darry Cole. Parce qu'on a oublié que Darry Cole était d'abord un musicien.
Ben oui, il avait fait le conservatoire, il connaissait bien la musique.
Vous l'aviez connu là-bas
de... Oui, oui, il avait fait des classes d'écriture. Non, il connaissait bien la musique. Je ne sais plus comment on s'est connus, mais on a travaillé ensemble. Bon, c'était très agréable parce que il était délirant. Il était basque. Oui. Il s'appelait André Darry Cole. Dit Darry Cole. Et on a fait de la musique de film ensemble.
Voilà, il a été un petit peu associé à vos premières musiques de film, on peut dire.
Oui, parce que moi, personnellement, je n'ai pas fait beaucoup de musique de film. J'ai jamais été très introduit dans ce milieu-là. J'ai fait quelques films. J'avais fait le film de la Maurice. J'avais travaillé aussi avec Agnès Varda.
Et puis, vous avez également collaboré avec des compositeurs de musique de film, comme par exemple Philippe Sard, je crois.
Oui, j'avais fait...
Alors là, vous étiez orchestrateur, en somme.
Voilà, c'est voilà, ça, oui. C'est ça. Un peu plus, d'ailleurs. Bon.
Un peu plus qu'orchestrateur.
C'est pour ça que notre collaboration, ça s'est un petit peu gratté à un moment donné. J'ai fait quand même 6 films avec lui.
Voilà. Mais vous avez quand même signé, alors, au moins une musique d'un film populaire célèbre, qui est le Pouic Pouic.
Pouic Pouic.
Un des premiers grands succès de Louis de Funès.
Mais je crois que c'est le réalisateur.
Jean Giraud,
qui était un type charmant d'ailleurs. Ouais. Je sais pas, il avait dû entendre parler de moi. Un jour, il m'a téléphoné, est-ce que je peux venir vous voir? Il était venu à la maison, très très gentil. Puis alors, on avait parlé du film, est-ce que vous voulez faire la musique? Oh, ben, j'ai dit très volontiers. Et c'est comme ça que j'ai fait la musique du célèbre Pouic Pouic. Parce que je me souviens d'un soir, il y avait à la radio, un spectacle transmis avec Frank Sinatra, qui était formidable. Et moi, j'avais encore une samba à écrire. Encore une samba. Et j'ai écrit cette samba en écoutant l'émission de Sinatra. Ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Parce que écrire de la musique en écoutant une autre, c'est pas trop bon. Et ben, j'ai quand même réussi à écrire cette samba qui était quand même pas mal. Et j'avais passé une très très bonne soirée.
Là, c'était... Ah, est-ce que vous l'avez reconnu, chers auditeurs? C'était, après la musique de Pouic Pouic, c'était Nounours qui arrivait pour souhaiter bonne nuit les petits, car vous avez été aussi, Jean-Michel Defay, le musicien de ce fameux Nicolas et Pimprenel qui a enchanté les enfants dans les années 60.
Exactement. J'ai démarré en 62.
Alors ça, c'était encore une autre aventure que celle du cinéma, c'était la télévision. Donc,
oui, alors je ne sais plus comment j'avais connu Claude Lélu, mais ça m'avait beaucoup plu de faire ça. C'est pas moi qui avais fait les génériques, souvent les
Le génériques. Fameux générique, oui. C'était une musique traditionnelle.
Oui, hein, oui, ça avait été enregistré par un quatuor de flûte à bec qui s'appelle le quatuor Syrinx.
C'est ça.
Voilà. Mais moi, j'avais fait les chansons et puis toute la musique de fond. C'était un peu particulier.
Oui.
Ça avait le côté enfantin, mais moi, j'avais bien aimé faire ça.
Et puis, alors, vous êtes devenu le spécialiste des oursons à la télévision. Oui. Parce qu'après Nounours, vous avez fait Colargol.
Voilà, j'étais dans les ours à l'époque.
Mais Colargol, c'était aussi avec Mireille.
Oui, parce qu'il y a eu une cinquantaine d'épisodes. Alors, elle en avait fait la moitié, 25 ou 26 épisodes. Et puis, je ne sais plus ce qui s'était passé avec le producteur. Il avait, entre guillemets, viré Mireille. Bon, alors un jour, parce que moi, je faisais les arrangements déjà de la musique de Mireille. Alors, un beau matin, Barry me téléphone, il dit « De Feuille, moi, j'en ai marre de Mireille. Est-ce que vous pouvez prendre la suite pour y faire la musique ?» J'allais pas dire non. Mais non. Alors, j'ai dit « Bon, allez, je me lance. » Et j'ai fait comme ça la vingtaine d'épisodes.
Les aventures de Colargol.
Les aventures de Colargol.
Voilà. Donc, des musiques que des générations connaissent bien, qui sont encore signées. Jean-Michel Defay. Et puis, je voudrais aussi qu'on évoque, parce qu'elle nous a quittés, elle aussi, cette année, et vous avez fait quelques très beaux enregistrements avec elle, Juliette Gréco.
Ah oui, bien sûr. Et elle avait besoin de quelqu'un qui la guide, parce que elle est la mesure, elle est un peu fâchée. Quand elle faisait les re-re, c'est moi qui faisais les marées, qui battais la mesure, tout ça.
Ouais.
Ça lui facilitait la tâche.
Voilà.
Mais elle était très agréable, cette femme.
Et c'est...
Elle avait beaucoup de talent. Elle avait cette voix grave, elle avait une voix de baryton.
Oui, c'est ça. Et comme arrangeur, on écrit pour une voix aussi. On choisit ses couleurs en fonction de la voix qu'on accompagne.
Alors, ben, ça se joue, bien sûr.
Oui.
C'est comme, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les frères Jacques, qui étaient quatre voix.
Oui.
Alors, j'étais obligé, pour que les quatre voix sonnent bien, d'orchestrer en dessous et au-dessus.
Voilà.
Pas en même temps que
pas
les voix.
Au milieu.
Parce que, ben oui, ça aurait été raté.
Oui, c'est ça.
Tandis, bon, une voix seule, elle passe partout. Il n'y a pas à se préoccuper de ce genre de choses.
Ouais. Et là, c'est la voix donc de Juliette Gréco avec vous-même, le 4 avril 1963, dans La Javanaise.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Là aussi, tout y est, Jean-Michel Defay, une belle chanson, belle auteur, belle voix, belle prise de son, on peut dire, également. Et puis, tous ces solistes excellents, même s'ils sont discrets, hein, le batteur, le flûtiste, le chœur.
C'était une orchestration discrète.
Voilà.
C'est ce qu'il fallait, d'ailleurs, pour ce genre de chanson, oui.
Oui.
Là, il fallait éviter quatre trompettes et quatre trompes. Oui.
Mais c'était quand même votre flûtiste habituel, par exemple, qu'on entend. Hein.
Oui, c'était Raymond Guyot, qui était un type formidable, qui jouait aussi bien le classique que le jazz. Il improvisait très, très bien le jazz à la flûte. C'était le meilleur, à mon avis.
Vous avez arrêté de faire des arrangements, Jean-Michel Defaille, parce que simplement, le métier a disparu ou parce que vous en aviez marre à un moment?
Il y a peut-être un peu des deux.
Oui.
Oui, le métier, en fait, il a sombré. Hein.
Oui.
Ben, je ne sais pas ce qui se passe, d'ailleurs, au point de vue des musiciens, parce qu'à l'époque, les musiciens faisaient 3 séances par jour. Ils gagnaient des montagnes d'argent et ils vivaient très, très bien. Maintenant, je crois que quand ils font une séance par mois, ils sont contents. Ouais. Le métier a complètement changé.
Et les chanteurs montent un petit groupe pour un disque et puis...
Oui, c'est voilà. Ça. Puis il y en a qui bricolent chez eux. Ils ont des synthétiseurs, des choses comme ça, oui. Alors, il y a des musiciens sûrement qui se sont recyclés. Hein,
ouais.
Qui sont devenus, je ne sais pas, cordonniers ou paysans. Ben non, mais c'est vrai. Moi, je connais un qui était devenu antiquaire. C'était un excellent bassiste qui s'appelait Guy Pedersen.
Ouais.
Il perd des scènes, il a fini antiquaire.
Voilà. Et vous avez continué à faire de la musique, mais vous avez arrêté les chansons pour retourner vraiment davantage vers la composition, et notamment, oui, oui. Donc, toujours...
J'ai pas été antiquaire, non.
Toujours les cuivres, et encore les cuivres, parce que vous avez écrit, par exemple, un concerto pour trompette. Hein,
on peut j'ai écrit un concerto pour trompette, pour cors, pour trombone, pour tuba. Plus des performances. J'ai écrit des performances pour les cuivres et les bois. Ça, voilà. Ça m'a beaucoup amusé. C'est dans des pièces très difficiles, si vous voulez, qui sont à la limite du jouable.
Ouais.
Oui.
Mais justement, pour se quitter, Jean-Michel Defaille, j'avais mis de côté une œuvre très, très originale qui s'appelle Ambivalence.
Oui.
Qui est justement pour voix et cuivre.
Oui, hein. C'est écrit pour trombone classique, trombone jazz. Alors, j'ai eu la veine d'avoir deux merveilleux interprètes. Jacques Mauger, qui est le tromboniste classique et qui fait une carrière internationale, c'est un merveilleux tromboniste. Et Denis Leloup, qui joue très bien du trombone et qui est un merveilleux improvisateur. Et j'ai mis derrière du bois soliste, ça m'avait plu comme ça, comme formation. C'est un peu original et ça sonne très très bien. Les cuivres et les bois, ça se marie bien. Et encore que les cuivres ressortent sur les bois.
Ah.
Pour ça que sur les voix, pardon. C'est pour ça que j'avais choisi cette nomenclature, voilà.
Et on va se quitter d'ailleurs avec cette musique, Jean-Michel Defaille, mais je veux dire quand même que, voilà, aujourd'hui, vous nous faites le plaisir d'être ici, vous entrez bientôt dans une nouvelle dizaine, j'ose même pas dire laquelle, hein. Vous fêterez vos 90 ans, on peut le dire, dans 2 ans.
8-8.
Voilà. Et vous composez toujours, puisque je vous ai eu au téléphone, vous étiez en train de finir des arrangements pour un futur disque.
Non, j'écris plus beaucoup de notes.
Non.
J'ai écrit dernièrement un trio classique,
voilà.
Pour piano, violon et violoncelle, oui. Il y a 3 musiciens qui sont en train de le travailler, puis ils vont venir le jouer chez moi, je vais être très content.
Ben voilà.
Mais c'était, voilà, c'est ma dernière œuvre.
Enfin, provisoirement.
Oui.
Voilà.
Oh, je pense pas que j'écrive encore. J'ai plus tellement envie. J'ai écrit pas mal de choses, vous savez, dans mon avis. Oui.
Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'être venu nous en parler ce matin. Et on va donc se quitter avec Ambivalence.
Très bien.
Qui vous ressemble vraiment et dont je crois que vous êtes très heureux. Donc merci de nous avoir fait partager cet itinéraire si singulier.
Merci à vous aussi. Thank you.
Ambivalence pour deux trombones et ensemble vocal, c'était donc une composition de Jean-Michel Defay qui était ce matin mon invité.
East is east and west is west and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes, and I'll stand out in buttons and bows. I'll love you in buckskin and skirts that I've homespun, but I'll love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun. My bones denounce the buckboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's bamboos where gals keep using those silks and satins and linens that shows, and I'm all yours in buttons and bows. My bones denounce the buckboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's bamboos where gals keep using those silks and satins and linens that shows, and I'm all yours in buttons and bows.
Silks and satins and linen that shows, and I'm all yours in buttons and bows.
Give me eastern trimming where women are women and high silk hose and peekaboo clothes and French perfume that rocks the room, and I'm all yours in buttons and bows. Buttons and bows. Buttons and bows.
Buttons and flowers and buttons and bows. Rings and things and buttons and bows.
Est-ce qu'elle n'est pas charmante cette petite chanson? C'était Dinah Shore dans Buttons and Bows, un enregistrement de 1947.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis avant de se quitter, je voudrais continuer, comme ces deux dernières semaines, à évoquer quelques-unes des opérettes qui se donnaient à Paris il y a exactement un siècle, en 1921. Je vous ai parlé de Dédé, je vous ai parlé de la petite fonctionnaire de Messager. Et André Messager avait un protégé, un jeune compositeur, Marcel Lattès, qu'on a déjà évoqué à la fin de l'année dernière à propos de son opérette Le Diable à Paris. Le tout jeune Marcel Lattès, qui donc sous la houlette du grand Messager, venait de faire ses débuts à Londres dans une opérette intitulée Maggie, une opérette reprise à Paris donc en 1921 en version française à la Gaîté Lyrique et qui s'intitule Nelly, une histoire très parisienne, très gérant, envie de dire anglo-parisienne parce que l'Angleterre est très présente aussi dans l'intrigue telle qu'on aimait les donner au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voici l'entrée de l'héroïne Nelly.
Dès le matin j'entre dans la danse, l'on me houspille et l'on me tense, je fais, je viens pleine de zèle, partout où l'on m'appelle. Quick Nelly, le singe te sonne, hop Nelly, vite au téléphone, passe-moi les épingles petites, et toujours vite, vite. Nelly, par-ci, Nelly, par-là, chacune brode sur ce thème, et le patron donne le la, ce qui peut courir mon nom baptême. Nelly, par-là, Nelly, par-ci, mais des cris et des réprimandes. Au fond, je n'ai pas grand souci, car Dieu merci, petitement deviendra grande. Parfois, lorsque je me promène, quelques gentlemen que j'entraîne et qui s'essoufflent à ma poursuite, murmure pas si vite. À son nez de rire j'éclate, mais à part moi cela me flatte, voir un monsieur de bonne mine s'occuper de la gamine. Nelly par-ci, Nelly par-là, ah si lui plaisait de répondre.
Lina Dachary et l'orchestre radio lyrique dans Nelly de Marcel Lattès. Lina Dachary qui chantait donc le rôle titre de Nelly qui, comme beaucoup d'héroïnes de l'époque, travaille dans une maison de couture parisienne. Et c'est dans cette maison qu'on va voir maintenant intervenir une autre protagoniste, Yveline, chantée par Claudine Collard, une jeune vedette de music hall, que nous voyons ici faire son entrée.
Oh, une cliente.
Qui, ça? C'est Mademoiselle Yveline, l'étoile de l'Oxford Palace, et Monsieur Roger d'Herblay.
Le beau Roger, son cavalier servant qui l'a suivi à Londres.
Le plus parisien des couturiers de Piccadilly offre ses hommages éblouis à la plus brillante des divettes françaises sur le sol de l'Angleterre.
Bonjour, bonjour.
Merci, nous sommes infiniment touchés.
Oui, je crois que j'ai en effet assez bien réussi à Londres.
Divette parisienne, sur les bords de la Seine, sœur, quand j'avais du succès, quand je me trébuchais en scène. Ici c'est du délire, car je n'ai qu'à leur dire, yes, en montrant mes mollets pour voir tous les Anglais sourire. Oh, c'est que j'ai l'accent parisien et surtout de gens de Paris comme un coquin d'accent rigolo, deux amours de gens d'or rigolote. Tout l'ombre apprécie mon esprit, mon chic, ma grâce et mon élégance. Car je suis moineau de Paris, oiseau qui vient de France. I sing, la salle croule. I speak, et l'on se roule. 14 sans autobus font admirer mon bus. Bon, boule. Je lance,
danse.
Les danses que je danse,
danse.
Des faubourgs à la cité sont toutes adoptées d'avance. Ah, mais c'est qu'elles ont l'accent de là-bas, ce je ne sais quoi que nous avons tenté. Ce rien qui ne se décrit pas, qui vous grise dès que l'on y goûte. Ah, voyez-vous, pour conquérir le monde entier, lorsque l'on est fameux, rien ne sert, messieurs, de courir. Faut partir de Paname.
C'est qu'elle a l'accent de la base. Je sais quoi que nous avons de peu. Ce qu'elle dit ne se décrit pas, qui vous brise de que l'on y court. Appelez-vous pour conquérir le monde entier, parce que l'on est fameux. Rien ne sert, mais c'est le courir. Faut partir de Paname.
Et c'était donc un autre extrait de Nelly, l'opérette de Marcel Lattès, dans un enregistrement de l'orchestre lyrique de l'ORTF sous la direction de Marcel Cariven. Pour nous quitter, eh bien, puisque nous sommes au mois de janvier, tiens, je vous propose d'écouter une très belle musique hivernale, le ballet L'Hiver de Giuseppe Verdi. C'est un extrait du ballet des quatre saisons des Vêpres siciliennes qu'on écoute maintenant par l'orchestre de la Scala sous la direction de Riccardo Muti.
Thank you.
L'hiver ou la première partie des quatre saisons, non pas de Vivaldi, mais de Verdi. C'est un ballet qui se trouve dans son opéra Les Vêpres Siciliennes. Et après le Gounod du début de l'émission, qui vous persuadera, j'espère, de découvrir ce merveilleux répertoire de musique de ballet à l'intérieur des opéras. Le théâtre de la Scala était dirigé par Riccardo Muti. « Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Cédric Châtelus, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un hommage à la si sympathique et merveilleuse artiste qu'était Christiane Eda Pierre. D'ici là, bon week-end sur France Musique, où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.